Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Hubert de Torcy, fondateur de Sage. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette société qui est très originale et se caractérise par beaucoup de points spécifiques qui nous concernent sur Radio Courtoisie. Je déplore l'absence de Hubert, mais Hubert est très chargé par ailleurs, donc de Hugues. Et donc, on lui fait un petit coucou s'il nous entend. Nous allons donc, sans plus attendre, demander à Hubert de se présenter succinctement pour dire qui il est et ce qu'il fait avant de revenir un peu plus largement sur son parcours.
Bonjour Louis. Alors effectivement, Hubert de Torcy, je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel depuis une trentaine d'années maintenant. Donc ça, c'est mon engagement dans l'Église. Et je dirige donc une structure de production et de distribution de films d'inspiration chrétienne qui s'appelle Sage. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, 12 ans. Voilà, j'ai lancé ça il y a 12 ans.
Alors, nous allons aussi revenir sur les raisons de la création de cette société, puisque c'est la seule, en fait, dans ce domaine, je
oui,
pense, enfin,
oui,
à ma connaissance.
En tout cas, en France, oui, bien sûr.
En tout cas, en France, il y en a peut-être quelques autres à l'étranger. Je sais que dans votre réflexion, vous avez beaucoup observé ce qui se passait aux États-Unis, puisque là, il y a une dynamique tout à fait différente. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail de votre société, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours plus personnel? Où est-ce que vous avez grandi? Quels sont vos repères? Et finalement, comment le petit bonhomme que vous étiez est devenu un jour un chef d'entreprise?
Alors, j'ai grandi à Ville d'Avray. J'ai passé les 20 premières années de ma vie à Ville d'Avray. J'ai fait toutes mes études à Versailles. J'ai fait Saint-Jean-de-Béthune, j'ai été en prépa même à Versailles, à Grandchamp, en prépa à école de commerce. Ensuite, j'ai choisi l'école de commerce la plus proche de Versailles, Jouy-en-Josas, à HEC. Et donc voilà, c'est mon parcours académique. J'ai toujours rêvé de faire du cinéma, depuis l'âge de 8 ans. Depuis gamin, j'ai toujours été fasciné par les images animées. J'avais pas l'occasion d'en voir beaucoup parce qu'on n'avait pas la télévision à la maison. Mais quand j'allais chez mes grands-parents, c'était vraiment ma fascination. Enfin, ces images-là qui s'animaient sur un écran, je trouvais ça incroyable. Quand j'étais gamin, je fabriquais mes propres lanternes magiques, mes dessins animés. Je connaissais par cœur la feuille du Larousse illustré sur la fabrication des dessins animés avec des feuilles de rhodoïdes. Donc tout ça me faisait rêver. Quand j'ai eu 8 ans, j'ai cassé ma tirelire et j'ai acheté ma première caméra.
Avant, vous étiez fait des petites caméras en carton, j'imagine?
Oui, c'est ça. Je faisais des dessins, des choses comme ça. Mais ouais, exactement, oui. Et donc, j'ai acheté ma première caméra, une caméra Super 8. Et j'ai fait mes premiers films entre 8 et 12 ans. Bien décidé à en faire un jour mon métier. Mon père disait, passe ton bac d'abord, fais HEC d'abord, fais ton service militaire d'abord. Enfin bref, donc j'ai fait tout ce qu'il m'avait demandé de faire.
Très respectueux de l'autorité paternelle.
Exactement.
Vous étiez plusieurs enfants?
On est 4 enfants, exactement.
Ouais. Et le numéro combien?
Le numéro 3.
Bon.
Et c'est vrai que, je pense à raison, papa pensait que c'était un métier de crève la faim et de gagne petit, c'était ses expressions. Et donc, malgré tout, quand j'ai eu accompli tout ce qu'il m'avait demandé d'accomplir, en sortant donc de mon service militaire, il se trouve que j'avais publié un livre pour avoir fait un pèlerinage entre le Puy-en-Velay et Saint-Jacques-de-Compostelle avant de faire mon service militaire à la fin de mes études. Et que ça, ce livre a été publié chez Fayard. Il a un peu cru à mon projet et m'a dit, écoute, nous, on est prêts à te financer, te loger, te nourrir et te blanchir pendant 3 ans, le temps que tu perces dans ce monde-là. Et après ça, en revanche, on coupe les vifs, tu prendras tes responsabilités. Mais on te donne une possibilité, ce que j'ai trouvé très fair de sa part. En revanche,
après HEC, alors.
C'est après HEC, exactement. Et après mon service militaire, pour mon premier job, Le problème, c'est que...
Service militaire, vous avez fait dans quel domaine?
J'ai fait dans l'infanterie. Ouais. J'étais élève officier, puis ensuite officier, à l'instruction. J'étais en Bretagne, je gardais...
Quelerne?
J'étais à Châteaulin, entre Brest et Quimper. C'était un régiment d'infanterie qui a disparu depuis, mais qui était censé surveiller les entrées et les sorties des sous-marins nucléaires sur la presqu'île de Crozon. Et c'était une expérience incroyable. D'ailleurs, c'est au cours de cette année de service militaire, en 1993, le dimanche de Pâques 1993, à la fin de mes classes à Montpellier et avant d'arriver à Châteaulin, on a eu 10 jours de perme. Et j'en ai profité pour faire une retraite à Parel Monial. C'était organisé par l'école d'évangélisation de la communauté de l'Emmanuel. Et c'est précisément le dimanche de Pâques de cette année-là que j'ai fait une rencontre. C'était Pâques 1994, en réalité, j'avais 23 ans. Que j'ai fait une rencontre forte avec Dieu, décisive. Enfin, sur le moment, je me suis pas vraiment, j'ai pas vraiment compris ce qui m'était arrivé. C'était un temps d'adoration dans la chapelle Claude la Colombière, donc pas dans la chapelle des apparitions, mais une chapelle voilà, dédiée aux jésuites qui a accompagné Sainte Marguerite Marie. Et là, voilà, pendant un temps d'adoration, j'ai vraiment ressenti une chaleur forte, presque une brûlure sur mes lèvres, dans mon cœur, le cœur qui semblait se dilater. Je pensais que le Seigneur me rappelait à lui. Et j'étais dans une sorte de béatitude incroyable. Voilà, que ça s'est arrêté quand, au bout d'une heure, le Saint-Sacrement a été déposé. Je ne savais pas ce que j'avais vécu. J'avais bien le sentiment d'avoir vécu une grâce particulière, mais je ne savais pas comment elle s'appelait. Et en revanche, ce que j'ai observé, c'est que dès le lendemain, quand je suis retourné, donc, ou que je suis arrivé plutôt à Châteaulin, il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas eu l'occasion d'évangéliser et d'annoncer le Seigneur à soit un soldat en particulier, soit aux officiers, soit à toute la troupe que j'emmenais à la messe pour le 15 août ou pour d'autres choses, avec un zèle qui m'était totalement naturel et qui était vraiment le fruit de cette expérience qu'on appelle dans le jargon, on va dire, charismatique, une effusion de l'esprit. Voilà, donc, et ça a été aussi un tournant dans ma vie, pour le coup, parce qu'à partir de ce moment-là, le désir que j'avais de faire du cinéma est devenu le désir d'annoncer l'évangile par le biais du cinéma. Ça, c'est vraiment à partir de ce moment-là que ce désir a muté en quelque sorte dans cette direction-là. Le problème, c'est que le cinéma, c'est un monde extrêmement fermé. C'est vraiment un monde de népo. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui a donné le mot népotisme, mais c'est un monde de fils d'eux, en gros. Hein. C'est-à-dire qu'on entre dans ce monde-là parce qu'on est le fils d'eux ou parce qu'on est le cousin ou parce qu'on connaît très bien telle personne qui va vous faire rentrer dans un monde voilà, très clos. Et en l'occurrence, moi, je viens d'un milieu familial où, pour le coup, il n'y avait pas de saltimbanque à aucun étage de la fratrie. C'est d'ailleurs un problème... Parce que je viens d'un monde, on va dire, aristocratique, bourgeois, de droite, qui s'est totalement désintéressé de la culture, du journalisme, des médias pendant des décennies. Le devenir de chacun de mes congénères était de faire une école de commerce ou une école d'ingénieur et de rentrer dans une entreprise du CAC 40, mais certainement pas de s'intéresser à ces matières molles que sont la politique, les médias, la culture. Et je pense qu'on le paye aujourd'hui parce qu'on s'est désintéressé de la culture, notamment pendant des décennies. Donc voilà, ça
c'est... Non seulement on s'est désintéressé de la culture, mais on l'a laissé à d'autres.
Exactement.
C'est plus embêtant encore.
Ouais, ouais. Tout à fait.
Mais alors, du coup, vous étiez donc beaucoup plus marqué que je le pensais très tôt.
Oui.
Est-ce que vous aviez quelques réalisations qui avaient attiré un peu de monde avant, quand vous étiez totalement amateur, adolescent, à l'école ou ailleurs? Non,
parce que c'était vraiment des choses que j'ai fait très jeune, en fait. Ouais. Entre 8 et 12 ans, que je regarde avec amusement aujourd'hui, parce que je faisais jouer mes frères, mes sœurs, mon chien, enfin voilà. Mais non, pas de réalisation particulière à part l'écriture d'un bouquin. Il n'y avait vraiment rien qui me rattachait vraiment profondément à la culture.
Quel était le titre du livre?
Carnet de route pour Compostelle.
D'accord.
Et en revanche, ce que j'avais compris après toutes ces années d'études, c'est que j'avais plus du tout envie d'user mes fonds de culotte sur les bancs d'une école. Je voulais, je savais qu'on apprenait. J'avais terminé mes 3 années HEC avec ce qu'on appelle la majeure entrepreneur. En gros, c'est une majeure où on n'a quasiment pas de cours, où on n'est que dans des missions réelles, concrètes, au service d'entreprises, dans différents cadres de création, de reprise, de transmission, enfin bref, tout type de cas de figure, de conseils, etc. Et là, j'avais vraiment tout appris. J'avais rien foutu pendant 3 ans sur le campus, sauf cette année-là où j'avais tout appris sur le terrain. Et donc, c'est ce que je voulais vivre dans le cinéma, mais sauf que j'avais pas de contact. Donc, j'ai écrit à l'époque aux plus grands réalisateurs du moment... les Luc Besson, les Jean-Paul Rapneau et consorts, pour leur dire, voilà, je sors d'école, je suis gratuit, je veux juste pouvoir apprendre sur le terrain, je suis prêt à vous aider autant que je pourrais, je suis bon à rien, aptes à tout. Et prenez-moi.
Il y en a un qui a répondu ?
Il y en a un qui a répondu, c'est Luc Besson, pour dire qu'il était en montage d'un de ses films et qu'il n'avait pas ni la disposition, ni la disponibilité pour accueillir une sorte de stagiaire chez lui, Les autres n'ont pas répondu. Et j'ai fait le deuil à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai fait une retraite de Saint-Ignace en Belgique à ce moment-là.
De 5 jours
Ouais, de 8 jours. Et au cours de laquelle j'ai sacrifié mon Isaac, un peu comme Abraham. J'ai offert au Seigneur ce désir que j'avais de faire du cinéma et pour lequel je n'arrivais pas à rentrer. C'est-à-dire que j'ai fait finalement quelques petites rencontres ici ou là avec des directeurs de casting. Je ne savais pas trop si je voulais être réalisateur ou comédien. Et puis, à l'issue de ces quelques petits échanges que j'avais eus, mais vraiment par la petite porte, hein, je me suis vu proposer des castings pour vanter une marque de shampoing. Fallait que je fasse un tournage en Allemagne. Je devais
vous
me retrouver.
Vous étiez prédisposé, hein.
À l'époque, j'avais des cheveux. À l'époque, j'avais des cheveux. Vous êtes observateur, mais non, j'avais des cheveux. Mais en l'occurrence, je devais me retrouver dans un lit avec une perruque 18e et deux pouliches de part et d'autre, les seins nus. Et là, je me suis dit, mais franchement, qu'est-ce que je vais faire dans cette galère,
enfin, oui.
Je me suis dit, rentrer par la petite porte, c'est peut-être pas une bonne idée. En fait, je vais me retrouver à me commettre à me compromettre dans des trucs sans intérêt. Et donc voilà, c'est le discernement que j'ai fait à cette époque-là, en me disant ben voilà, je sacrifie ce désir, enfin j'offre au Seigneur ce désir que j'ai. S'il est de Dieu, il reviendra d'une manière ou d'une autre. Et en attendant, je vais faire ce que n'importe quel HEC fait. Voilà, j'ai candidaté à l'époque dans l'automobile et je suis parti pendant 10 ans chez PSA où je me suis éclaté. Vraiment éclaté. J'ai beaucoup aimé ces années chez PSA.
Au siège ou sur les sites?
Alors, j'étais dans pas mal de sièges, parce qu'il y a beaucoup de sièges parisiens. J'ai commencé chez Citroën, au contrôle de gestion. Ensuite, je suis parti aux relations sociales, avenue de la Grande Armée. Ensuite, je suis parti à Cergy pour... pour m'occuper du commerce export de pièces de rechange. Puis ensuite, à Cergy pour la logistique export de pièces de rechange. Voilà, des années très agréables, où j'avais l'occasion d'évangéliser. Quasi quotidiennement, pareil, avec mes camarades de jeu, en fait. Ça a été vraiment des années super.
C'est délicat, quand même, parce que quand on évangélise, comme vous le dites, après, il faut être exemplaire. Et parfois, on nous reproche la moindre chose sans savoir.
C'est vrai. Donc, c'est exactement,
prise de risque.
C'est exactement la question que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler. Vraiment, c'est exactement comme ça que je me suis dit. Est-ce que je m'affiche? Mais avec le risque que je sois moi-même un contre-témoignage, si jamais je me comporte pas de manière... Et je me suis dit, en fait, ça va m'obliger à bien me comporter et à vivre de manière, je dirais, cohérente avec ma foi, tout simplement. Et ça va être très bien. Et donc, la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est que j'ai mis une petite icône sur mon bureau, j'ai mis un petit message, il y avait des écrans de veille d'ordinateur. Voilà, il y avait marqué « Le Christ est ressuscité, Alléluia », quand mon ordinateur se mettait en veille. Voilà, des petites choses très simples. Mais qui fait que très vite, tout le monde savait que j'avais la foi. Mais du coup, tout le monde, parce que les gens ont plein de questions, mais tout le monde, dès qu'il a une question, mais aussi bête que, tiens, au fait, c'est quoi la Pentecôte? Pourquoi est-ce que c'est férié lundi de Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Des choses aussi élémentaires que celles-là. Mais ça a pu donner lieu à des conversations beaucoup plus profondes. Quand, tel envisage de faire une PMA, la question du baptême des enfants, enfin voilà, plein de choses en fait que les gens portent en eux mais ne savent pas forcément à qui s'adresser, ils connaissent pas de prêtres, ils connaissent pas de gens croyants autour d'eux, et donc le fait de s'identifier comme tel, ça c'est du pain béni. Donc je dis ça parce que, et presque avec nostalgie, parce qu'aujourd'hui je travaille dans un...
Oui, vous êtes dans un environnement protégé.
Dans un environnement où on se retrouve tous les jours entre collègues à la messe, ou à l'adoration, donc c'est sûr que c'est un peu différent.
Oui.
Mais, et j'évangélise de manière beaucoup moins directe, beaucoup plus indirecte, à travers ce que je produis, entre guillemets, ou ce qu'on met à disposition. Donc c'est un petit peu frustrant de ce point de vue-là, mais heureusement, le fait que je fasse partie de la communauté d'Emmanuel, ça me donne quand même aussi beaucoup d'occasions. D'évangéliser par ailleurs. Parce que ça reste, depuis cette expérience de Dieu, à l'âge de 23 ans, le moteur de ma vie. Vraiment, mon axe principal, c'est vraiment l'annonce. En fait, j'ai moi-même fait cette expérience forte de l'amour de Dieu personnel pour moi. Et ma soif, c'est que chacun puisse la vivre, cette expérience-là. Elle n'est pas que pour certains. C'est ça la bonne nouvelle que je souhaite annoncer au plus grand nombre.
Ce qui est étonnant, je ne sais pas si vous partagez cela, mais c'est qu'il y a énormément, énormément de croyants, de chrétiens qui vont à la messe, mais qui ne font pas cette expérience forte, cette rencontre. Parfois, ils ne le font pas de leur vie.
C'est vrai.
Et on sent bien qu'à un moment ou un autre, il faut qu'on soit un peu comme ça, heurté de plein fouet, pour que ça sorte vraiment, cette foi, et qu'elle prenne tout son sens. Comment vous expliquez ça, que finalement, il n'y a que peu de personnes qui se sont touchées?
Ça reste un mystère. Donc, je ne sais pas sûr de pouvoir vraiment l'expliquer. Ce que je pense, c'est que il y a des phases de l'histoire, en tout cas, où il y a eu des phases de chrétienté, où on était encore en pays chrétien, en terre chrétienne, où, en quelque sorte, bah, du coup, les lois, l'environnement, le cadre fait que il y a peut-être moins besoin de permettre à tel ou tel apôtre futur de faire ces expériences fortes. Et que voilà, on a quitté cette ère chrétienne, en tout cas en ce qui concerne la France, de manière assez claire. Donc on est dans une civilisation post-chrétienne, comme beaucoup de sociologues le disent. Et donc là, il y a sans doute un besoin plus fort, en tout cas, d'annonce, et que le Seigneur se trouve les ouvriers pour sa mission, pas seulement au sein du clergé, comme c'était peut-être le cas, je pense, dans les siècles précédents. C'est-à-dire que quand les gens faisaient une expérience forte de Dieu, d'ailleurs, ils rentraient dans les ordres, en fait. Ouais. Ils faisaient un peu l'assimilation avec un appel. Bien sûr, moi, je me suis posé la question.
Oui, ça aurait pu votre cœur.
Bien sûr, comme beaucoup de gens, je pense. Beaucoup de jeunes gens de mon âge à l'époque, et encore aujourd'hui. Mais voilà, c'était pas mon appel, en tout cas. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai discerné avec une autre retraite de Saint-Ignace un peu plus tard, où j'ai fait l'élection du mariage, comme on dit. Mais oui, je pense que c'est vraiment le mystère des choix de Dieu. J'ai d'autant plus d'admiration pour ceux qui sont fidèles et qui pratiquent leur foi, qui prient sans avoir vraiment de grâce sensible, ni de certitude en quelque sorte. Moi, c'est sûr que je n'ai jamais plus douté de l'existence de Dieu depuis cette expérience-là. Et que ben, c'est le fruit de l'effusion de l'esprit. Hein. L'effusion de l'esprit, alors cela dit, après ça, je dirais, si on rentre dans des aspects plus, on va dire, théologiques ou catéchétiques, c'est une sorte de renouvellement des fruits de ce qu'on appelle le sacrement de la confirmation. Quand on regarde dans le catéchisme les fruits de la confirmation, c'est exactement ce que j'ai vécu avec cette expérience de l'effusion de l'esprit. Sauf que là, elle est arrivée de manière sauvage, bien des années après que j'ai reçu la confirmation, mais comme pour raviver le don que Dieu fait en chacun de nous le jour de la confirmation. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que nos préparations à la confirmation soient comme des préparations à l'effusion de l'Esprit pour accueillir ce don incroyable, qui est ce don de l'Esprit Saint, en fait. La vie change complètement, parce qu'on se met à vivre une forme de soumission à l'Esprit, qui est, pour reprendre les mots d'un saint que je vénère particulièrement, saint Séraphin de Sarov, hein, qui est un saint orthodoxe, c'est le but de la vie chrétienne. Il dit, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. En quelque sorte, c'est le fait de vivre cette soumission permanente à l'Esprit qui fait que notre vie est bien plus incroyable et passionnante que celle qu'on aurait peut-être décidée avec notre volonté propre.
Et en particulier, quand on est à la tête d'une organisation, d'une entreprise, l'éclairage de l'Esprit Saint, quelque chose de très précieux.
Extrêmement précieux. Après ça, c'est pas simple. Ouais. Je dirais qu'on le désire tous. Et même, enfin, je dirais, moi, ça reste un combat quotidien. Comment savoir quelle est la volonté de Dieu? Comment ne pas perdre de temps dans des projets qui ne porteront pas de fruits, à quelque niveau que ce soit, hein, pastoraux ou financiers? Parce qu'il y a aussi la question de n'importe quel chef d'entreprise, c'est aussi la pérennité de son entreprise. Donc voilà, cette vie dans l'Esprit Saint, cette vie avec l'Esprit Saint, elle n'est pas simple. Elle reste quelque chose de compliqué. Elle est nourrie forcément par la prière, mais qui peut dire avec certitude, c'est la volonté de Dieu. On est toujours en train de la discerner.
Alors, 10 ans chez Peugeot,
oui, ça. Bravo.
Après, vous entamez directement ce nouveau challenge.
Alors,
de sage,
pas directement, non.
Pas d'intermédiaire.
Déjà, pendant à la fin de ces 10 années chez PSA. Du fait de mon appartenance à la communauté Emmanuel et de ma passion ou mon attrait pour l'évangélisation par les médias, l'évangélisation un peu de masse et par la culture, la communauté m'a confié à moi et mon épouse, ma jeune épouse, je me mariais à ce moment-là, la mission de produire une comédie musicale qui avait été écrite par un prêtre de la communauté, Marcus Vital, qui s'appelait Maria. C'était une très jolie comédie musicale sur un mari. Et donc, je me suis donné à fond dans ce projet-là, qui m'a passionné, vraiment qui m'a passionné, qui m'a transporté d'enthousiasme. On a fait une tournée d'une vingtaine de représentations partout en France, dans des zéniths. Ça a été un très grand succès à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose, on va dire, qui sortait un petit peu de l'eau. Là, je parle des années 2004-2005. Et donc, et suite à cette expérience-là, la communauté m'a proposé de quitter mon job pour m'occuper des médias de la communauté, qui étaient à l'époque un journal, une revue qui s'appelle Idées Vivants, et une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions de l'Emmanuel. C'est arrivé vraiment aussi, je dirais, ce choix de changement, il est arrivé à un moment où chez PSA, je devais moi-même changer de job. On m'avait fait une offre très intéressante, très alléchante, pas passionnante en termes de travaux, mais c'était vraiment un poste tremplin, très confortable, pas très loin de la maison, avec une voiture de fonction, à la direct, avec un management cadre en vue de récupérer une filiale à long terme. Donc il y avait vraiment un truc intéressant. Et j'avais 10 jours pour donner ma réponse. Et c'est au milieu de ces 10 jours, sans que qui que ce soit au sein de la communauté sache quel était mon discernement du moment, qu'est venue cette proposition. Et là, ça a été comme une évidence pour moi que voilà, c'était le moment de lâcher mes filets, de laisser ma barque, et puis d'aller suivre Jésus dans une mission d'être non plus des pêcheurs de poissons, mais un pêcheur d'hommes, quoi.
Là, il faut s'abandonner un peu quand même, parce que faire un choix irrationnel, un peu. Vous aviez des enfants
On avait un enfant et demi. Le deuxième était en route. Et donc, c'est un choix que j'ai fait avec mon épouse, ma jeune épouse à l'époque. C'est un choix que j'ai fait qui a beaucoup choqué papa, qui m'a quasi déshérité ce jour-là.
En France, c'est pas possible. Hein,
oui. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, dans sa tête, là, c'était. Enfin, voilà, il avait perdu. J'avais perdu la tête. Mais c'est un choix que j'ai jamais regretté. En fait, depuis lors, je sais tous les matins pourquoi je me lève. Et je le fais, je le dis de manière très spontanée. Donc ça, c'est assez passé. Du coup, ce basculement s'est fait en 2006. Donc il y a maintenant 20 ans. Depuis 20 ans, je me dis, si jamais je gagnais des millions au loto demain, je continuerai de faire ce que je fais. C'est-à-dire, je fais vraiment ce pourquoi je me sens appelé, fait. Je me sens vraiment tellement être là où je dois être. C'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc, c'est pas un job alimentaire, c'est vraiment une mission. Donc, j'ai commencé dans les médias, on va dire, de la communauté. Puis, petit à petit, j'ai...
Et juste une parenthèse sur la communauté. Bon, la communauté d'Emmanuel a été, là aussi, une sorte de détonateur sur le plan chrétien, fin des années 90, en offrant un appel d'air énorme. Un moment où vraiment la communauté chrétienne avait besoin. Elle s'est structurée, elle est devenue très importante, hein, quantitativement en nombre de personnes. Et est-ce qu'il y a un deuxième souffle? Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de plus en plus, dans des communautés comme celle-ci, d'aller plus largement sur les terres qui sont à débroussailler. Comment ça se passe aujourd'hui? Enfin, ça n'a rien à voir avec le sujet de l'émission, mais j'en profite pour m'instruire.
Bah, je dirais que c'est ce dont on parlait, c'est le discernement avec l'Esprit-Saint. Où est-ce que le Seigneur nous appelle, en fait? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que la communauté a initiées ou réinitiées, une sorte de renouveau liturgique, de renouveau de l'adoration eucharistique, de renouveau des chants. La communauté fait partie, avec le chemin neuf, des premiers à avoir initié les parcours alpha. Donc il y a eu plein de choses comme ça qui ont été initiées, puis ensuite des écoles de charité et de mission, puis des groupes de prière pour les malades. Maintenant, il y a des formations au sein du diocèse de Paris au charisme, etc. Donc on sent que toutes ces choses-là, petit à petit, elles
s'ancrent déjà.
Elles s'ancrent dans l'Église, vraiment. Enfin, très franchement, c'est beau d'ailleurs de voir ça. Et on s'en réjouit. Et donc... Donc, il y a une forme, en tout cas, mais maintenant, la communauté, elle reste très jeune. Hein. On a fêté peut-être nos 50 ans, donc ça reste très jeune au regard de l'histoire de l'Église. Mais en tout cas, je dirais qu'il y a sans doute un petit côté défricheur de voix nouvelles pour annoncer le Seigneur. Je pense que ça, je fais partie de ces manières nouvelles d'annoncer le Seigneur. Quelles seront les nouvelles voix demain? Je ne sais pas le dire, mais en tout cas, ça fait partie du discernement, je dirais, communautaire, de savoir quels sont les lieux où le Seigneur nous appelle pour annoncer son nom au plus grand nombre, quoi.
Et alors, après cette comédie musicale que vous avez réussie à l'époque avec la communauté d'Emmanuel, il s'est passé encore un temps avant que vous ne criez sage ou comment les choses se sont enchaînées?
Je me suis occupé de ces journaux-là et de cette maison d'édition pendant 4 ou 5 ans. J'ai commencé d'ailleurs... à devenir un peu journaliste, je dirais par accident, mais j'avais aucune formation pour cela, mais j'ai même animé pendant 4 ans une émission hebdomadaire sur KTO, qui était formidable parce que voilà, c'était une émission qui s'appelait Un cœur qui écoute, où je recevais à chaque fois un témoin qui me partageait justement sa rencontre avec Dieu ou comment sa vie avait changé grâce à Dieu. C'était vraiment une très belle occasion de donner des témoignages vivants de ses expériences de Dieu. Et puis j'ai lancé avec un ami un journal qui s'appelle L'Invisible, qui était censé être un journal gratuit, qui continue d'exister d'ailleurs. Oui. Donc on a lancé ça. Ça a connu des hauts et des bas. C'était un peu compliqué. Tous les journaux gratuits ont fermé depuis les années 2000. Il y a eu beaucoup de pertes au feu. Enfin, les fameux 20 minutes et autres directs matin, etc. ont disparu.
Et comment ça fonctionne alors? Parce que L'Invisible, je connais un petit peu, il n'y a pas de pub. Donc
Il y a un petit peu de pub, mais pas beaucoup. Ouais. Ça fonctionne très modestement, parce que c'est vrai que le papier, c'est un vrai challenge. Après ça reste un challenge qui reste pertinent quand on est sur une diffusion géographique. C'est-à-dire que le papier est extrêmement challengé par Internet, mais quand on a un besoin de communication, je dirais, local, le papier reste irremplaçable. Et donc, par rapport à tous les journaux diocésains, il y avait des journaux paroissiaux, mais ils ont quasiment tous disparu maintenant, mais notamment par rapport à une communication missionnaire diocésaine, je continue de penser je suis toujours président en fait de cette structure, mais je continue de penser que L'Invisible est vraiment l'outil formidable pour annoncer localement, et surtout maintenant qu'il y a tant de chercheurs de Dieu, je dirais que c'est ça qui est quand même incroyable, c'est qu'il n'y a plus besoin, comme il y a 10 ans ou 15 ans, quand on a lancé le journal, d'avoir des équipes de distribution. Il suffit de les poser à l'entrée de l'église. Il y a tellement de gens maintenant qui rentrent dans les églises, qui sont des curieux et des chercheurs de Dieu, que les journaux partent comme ça. Et comme il y a toujours le kérigme qui est annoncé dans ce journal, ça fait partie de ces différents petits dispositifs qui, avec les influenceurs, avec la série The Chosen, qui sont partie des choses qui, je pense, permettent à ces recommençants de renouer avec l'Église, de se préparer au baptême, etc. Donc ensuite, et le modèle économique de L'Invisible, du coup, c'est effectivement un peu la pub, mais pas beaucoup. Ce que payent, ce qu'acceptent de payer les paroisses ou les diocèses pour acheter ces journaux qu'ils offrent ensuite gratuitement. Et puis les dons. C'est vraiment le triptyque de ce qui permet à cette petite équipe, qui est vraiment très modeste, c'est que c'est 5 personnes, de continuer la mission.
Alors, 4-5 ans au sein de la communauté d'Emmanuel sur ces sujets.
C'est ça.
Et puis, le cheminement dans votre tête se fait et vous aboutissez à Sage.
Voilà, ça, c'est même un cheminement qui s'est fait en communauté, parce que... Et je dirais de manière extrêmement prosaïque, grâce à une loi initiée par Sarkozy à l'époque qui s'appelait la loi TEPA et qui permettait à ceux qui payaient de l'impôt sur la fortune, à l'époque, la première année, c'était incroyable, 75% de son impôt pouvait être,
transmis, donné.
On avait un reçu fiscal jusqu'à 75% de son investissement dans une PME ou quand on faisait un don à une fondation. La communauté n'avait pas de fondation à l'époque. Elle n'a toujours pas d'ailleurs cette année, au jour d'aujourd'hui. Mais on s'est dit, est-ce que c'est pas l'occasion de créer une structure qui nous permettrait d'évangéliser dans un domaine où on n'a jamais été parce qu'il faut des moyens financiers importants, et notamment les moyens du visuel. Et c'est comme ça que... Et puis comme, bien sûr, tout le monde savait quel était mon désir le plus fou, on m'a demandé de lancer cette structure-là. Et à l'époque, on a levé pas grand-chose, mais on a levé 160 000 euros de mémoire pour créer cette premier étage de la fusée de Sage à l'époque.
C'est une société classique.
Une société, une SAS.
Avec des actionnaires. Ouais,
exactement.
C'était qui les premiers actionnaires?
C'était les membres de l'Emmanuel, du coup, qui payaient l'ISF et qui étaient contents de rajouter 25% à ce que de toute façon ils auraient payé à leur ISF pour pouvoir permettre à cette structure d'exister. Donc c'est comme ça que c'est né. Et j'avoue qu'à ce moment-là, comme je lançais en même temps L'Invisible, j'ai pas vraiment pu commencer quoi que ce soit avec. Donc on a démarré très modestement. Au début, avec un salarié, on a commencé par produire à l'époque des petites vidéos pour l'église, le denier de l'église de tel diocèse, les AFC, les sessions d'été de parrainmonial, la recherche de fonds pour les prêtres, des petits clips publicitaires, on va dire, à destination d'Internet. Là, on est dans les années 2009-2010. Pas réalisateur, je faisais du coup appel à des réalisateurs en fonction des projets. On a créé à cette époque-là, on a produit 3 documentaires en coproduction avec KTO. On a produit une série une mini-série humoristique de fiction qui s'appelait Le Catalogue, qui a eu un petit succès quand même à cette époque-là, qui était diffusée sur KTO et sur YouTube. Voilà, en gros, ce qu'était Sage version zéro à l'époque. Et puis, en 2014, j'avais, on va dire, stabilisé l'Invisible, qui avait connu quelques chaos les années auparavant. Et donc, j'avais un peu plus de temps. Je pouvais revenir à Sage, que j'avais un peu mis en sommeil pendant un ou deux ans pour sauver, entre guillemets, le soldat l'Invisible. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai effectivement repéré qu'il y avait un certain nombre de films qui sortaient aux États-Unis, qui avaient l'air géniaux quand je voyais les bandes-annonces, mais qui ne sortaient pas en France. Personne ne les sortait en France. Ils étaient marqués sur Allociné prochainement. Mais en fait, j'ai compris très vite que prochainement, ça veut dire qu'il n'y a pas de distributeur, personne ne sortira ce film en France. Et je voyais des films comme Dieu n'est pas mort, comme Et si le ciel existait, comme Christeros, c'est des films qui sont sortis dans ces années 2014.
Et là, Christeros est sorti dans les salles traditionnelles, en fait.
Ouais. Donc aux États-Unis, bien sûr, d'abord.
Ouais.
Et pourtant, Christeros, je dirais, il y avait Andy Garcia, Eva Longoria, Peter O'Toole, Oscar Isaac. Il y avait un gros casting, un western avec quand même des moyens et tout. Personne ne sortait ce film-là en France. Bref, du coup, je me suis dit, ben, je vais tenter. Je connais, grâce à mes métiers, on va dire, d'éditeur de presse, etc., je connais tous les acteurs des médias chrétiens, puisque c'est tous mes collègues, je les vois chaque année aux journées François de Sales qui rassemblent tous les médias chrétiens. Je connais, grâce à l'Invisible, on va dire, je connais, en tout cas, j'ai le listing de toutes les paroisses de France. Donc, j'ai de quoi toucher le réseau catholique, à minima, pour pouvoir communiquer sur ces films-là. Et donc, j'ai commencé à récupérer les droits de premier film, Christeros. Et j'ai appris le métier. On s'est mis en contact avec le producteur, par le bien d'un ami d'ailleurs, qui, argentin, qui avait le contact avec le producteur qui était mexicain. Et il nous a fait confiance. Et il nous a laissé les droits en disant voilà, il nous a vraiment donné notre chance. Et là, j'ai recruté un programmateur, quelqu'un qui avait l'habitude de contacter les salles de cinéma. J'ai recruté un attaché de presse spécialisé dans le cinéma et qui savait faire aussi des affiches. Et puis, voilà, on a bossé comme des fous, jour et nuit, pendant 4 mois, en apprenant le métier de distributeur que je ne connaissais pas du tout. Et puis, mais ce n'est pas un métier très compliqué. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des études qui font que je suis bon à rien, mais apte à tout. Et du coup voilà, on a fait cette sortie. Et on n'a pas eu un immense succès. On a fait 85 000 ou 90 000 entrées. Mais on a franchi notre point mort, ce qui n'arrive en général que, d'après les statistiques du CNC, que dans 37% des cas. Donc c'est très faible, il y a peu de films qui franchissent le point mort. Et les salles nous ont salué la prestation en disant, dis donc, franchement, on n'a vu aucune pub sur ce film et on a vu débouler des gens dans les salles de cinéma qu'on ne voyait jamais. Et d'ailleurs, on ne pensait pas qu'ils existaient encore. Ils étaient en Leuden, ils étaient... donc, je faisais venir des gens qui n'étaient plus cinéphiles, en tout cas, qui ne venaient pas au cinéma de manière habituelle et qui sont venus spécialement pour ce film-là. Et ils nous ont encouragés à poursuivre l'aventure. Et donc, voilà, l'année d'après, on a ressorti un autre film au cinéma, Christian Lebel, puis après ça, on a acheté d'autres films. Puis petit à petit, j'étais tout seul. Quand je dis on, j'étais tout seul au début.
Ouais.
Et puis j'ai recruté une personne, puis deux, puis trois. Puis aujourd'hui, on est 15 personnes. Enfin voilà, il s'est passé 12 ans maintenant.
Vous êtes fait identifier aussi, par exemple aux États-Unis, comme étant susceptible de les aider à diffuser.
Avec le temps, oui. Avec le temps, maintenant, tous les gens qui produisent des films faith-based, comme disent les Américains, je sais qu'on n'aime pas, mais c'est une appellation du genre, en fait, parce que ce n'est pas un genre qui est très reconnu en France aujourd'hui. Moi, j'ai ça, je parle des films d'inspiration chrétienne. Donc, c'est ce cinéma-là. En tout cas, il y a des productions aux États-Unis, il y a des productions en Espagne, en Italie, en Pologne, au Mexique. C'est un peu là que sont, on va dire, les principaux producteurs. Beaucoup d'évangéliques dans ce monde-là, notamment aux États-Unis. Les évangéliques ont quasiment, je dirais, trusté 10 ans avant les catholiques les grosses majors américaines, qui ont toutes, enfin au moins 3 d'entre elles, en tout cas, ont créé des filiales dédiées à la production de films chrétiens, tellement le marché américain est réceptif à ce type de films. Les églises, notamment évangéliques, louant des salles de cinéma complètes au moment de la sortie des films, faisant le succès, voilà, des succès vraiment incroyables sur certains films comme Dieu n'est pas mort, le premier d'entre eux étant La Passion du Christ de Mel Gibson, qui en 2004 était comme une sorte de précurseur de tout ce qui allait se passer à partir de 2014. C'était le premier là, qui est sorti, qui a surpris tout le monde par sa dimension. Hein. C'est le premier film, le film indépendant le plus rentable de l'histoire du cinéma. On dit qu'en 2005, un an après sa sortie, 75% des Américains avaient vu ce film. C'est d'ailleurs, je pense, un des films les plus évangélisateurs qui ait jamais été fait.
Oui. Finalement, la contestation avait quelque chose de bon, oui. Comme toujours.
Souvent, oui. C'est vrai, souvent. Ben, en tout cas, elle est souvent le signe qu'il va y avoir ou qu'il y a une forme de, j'allais dire, d'onction divine sur un film et qui, mystérieusement, vient toucher les cœurs. Oui. Et, c'est la raison pour laquelle moi, je suis dans ce métier. C'est que je sais que le cinéma, c'est un lieu, comme tous les arts, où il y a une forme de catharsis possible, c'est-à-dire quelque chose qui rend meilleur le spectateur, qui peut, on va dire, flatter ses meilleurs instincts et le rendre meilleur. Ça nous est tous arrivé de voir un film et de se sentir grandi. Là, j'ai été voir récemment le diptyque sur De Gaulle, extraordinaire. D'ailleurs, c'est presque lunaire. Hein. C'est un film patriotique. On parle de la gloire de la France, de l'honneur de la France, de Clovis, de Jeanne d'Arc. Enfin, c'est incroyable. Ce film est vraiment, vraiment magnifique. Il exalte des héros, quoi. C'est vraiment, on n'est pas dans ce cinéma qui, trop souvent, exalte les losers, exalte les pervers. Là, c'est vraiment, voilà, c'est un film sur l'héroïsme, hein, sur les vertus. Voilà. Donc, c'est des films comme ça. Ils ne sont pas nécessairement tous chrétiens, d'ailleurs, mais qui peuvent effectivement avoir un effet catharsitique sur le spectateur. Mais je suis aussi persuadé qu'un film peut avoir des vertus thérapeutiques. Mettre le doigt, apporter des paroles qui vont permettre à des gens de faire, de prendre conscience de blessures ou de choses, avoir une vraie vertu thérapeutique. Et enfin, une vertu de conversion, un effet de conversion. Et ça, on le voit très souvent. On le voit très souvent. On le voit beaucoup avec la série The Chosen, on a reçu beaucoup de témoignages. Et puis récemment, avec Sacré-Cœur, on ne compte pas le nombre de témoignages qui nous sont remontés de gens qui sont revenus à Dieu grâce à ce film. C'est hallucinant. Et les meilleurs pour en parler, c'est les prêtres chapelains du sanctuaire de Paray-le-Monial qui, chaque jour, voient des gens qui viennent se confesser après 30 ou 40 ans parce qu'ils ont vu ce film au cinéma et qui veulent voir où ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé sur les lieux mêmes. Donc oui, ça, c'est ce qui fait que je me réveille tous les matins en me disant quelle hâte de travailler.
Quand on parlait du premier film déclencheur La Passion, comment est-ce qu'il avait été diffusé en France?
Par un musulman. Ah. Tarak Ben Ammar. Ah ouais. Tous les distributeurs ont eu peur, en fait. La peur est malheureusement ce qui gouverne quand même ce monde. Ouais. Mais il y a eu de telles rumeurs infondées, totalement infondées, d'antisémitisme sur le film, qui sont parties d'une photo de plateau. C'est quand même incroyable, hein, l'histoire, c'est celle-là. D'ailleurs, c'est Tarak Ben Ammar qui me l'a raconté, cette histoire que j'avais perdu de vue. Il y a eu une photo de plateau, en quelque sorte, donc pendant le tournage, une photo volée, en quelque sorte, parce que Mel Gibson est très... il cultive le secret. Il diffuse très peu de choses donc, quand il tourne. Hein, pareil pour La Résurrection du Christ, c'est vraiment avec parcimonie. Et donc, il y a une photo où on voit le Christ qui est interrogé par le Sanhédrin. Et au fond, des hommes qui sont en train de préparer la croix du Christ. Et donc cette photo a été le prétexte pour dire c'est un film antisémite qui veut faire croire que ce sont les Juifs qui sont responsables de la mort et non pas les Romains. La preuve, c'est que c'est des Juifs qui sont en train de préparer la croix. Et donc c'est sur cette base-là que la polémique antisémite du film, la réputation antisémite du film est sortie. Alors, de fait, je crois que cette scène-là n'existe pas dans le film. Alors, je ne sais pas si elle a été coupée à cause de la polémique ou pas. En tout cas, je dirais tous les Juifs qui ont vu ce film après qu'il soit sorti ont tous dit qu'il n'y a rien d'antisémite dans ce film. Donc, c'était vraiment une fake news, mais qui a eu pris des proportions tellement incroyables que même l'épiscopat français disait qu'il ne fallait surtout pas venir voir le film. Enfin, ça a été quand même vraiment terrible. Ce qui fait que tous les distributeurs se sont dit « je ne vais pas sortir ce film, on va dire que je suis antisémite, je n'aurai même pas le soutien des chrétiens. C'est foutu ». Et du coup, c'est un producteur très connu d'origine tunisienne, Tarak Ben Ammar, qui a dit, bah, moi, je vais le prendre. Il était ami avec Mel Gibson, il connaît à peu près tout le monde à Hollywood. Et il a décidé de créer une société de distribution à l'époque. J'aurais adoré faire ça. Et qui a fait ce film-là, qui a fait, je crois, 1,8 ou 2 millions d'entrées en France. Donc, énorme succès dans le monde entier, bien sûr, mais aussi en France. Et voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées.
Donc, vous connaissez deux premières années où vous êtes un peu partagé avec vos deux activités. Et puis, après ces années-là, vous commencez à comprendre finalement comment vous devez orienter votre société pour qu'elle réponde pleinement à vos attentes.
C'est ça. Et surtout, je m'investis de plus en plus à temps plein. Maintenant, je suis à temps plein sur Sage. Je recrute de plus en plus de monde. On sort plus de films. Et puis, puis voilà, petit à petit, voilà, l'écosystème grandit. C'est toujours un peu sur un fil. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais perdu d'argent. Voilà, on va voir tant
depuis
que ça dure.
Depuis le début,
ouais. On n'a jamais perdu d'argent, même pendant le Covid. En fait, c'est là où c'est... Enfin, moi, en tout cas...
Le Covid a pu être providentiel pour certains aspects.
Alors, il a été providentiel pour les Netflix et les Amazon Prime, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le digital. Eux ont connu un boom incroyable. Mais alors, pour tous les distributeurs de cinéma, les éditeurs de DVD, etc., qui ont vu tous les cinémas fermer leurs portes et puis mettre peut-être 2 ans avant que les gens retournent dans les cinémas, ça a été vraiment une terrible crise. Hein. Tous les librairies, les boutiques étaient fermées pour les DVD. Tout le monde ayant goûté à la vidéo à la demande, vous avez vu, je fais attention de ne pas de parler de VOD, parce que ça, c'est un mot anglais. Oui. Mais donc voilà, a fait que l'avènement en fait, de la VAD. A complètement achevé le marché du DVD. Donc ça a été vraiment, ça a été très sanglant pour la profession, à part pour les grosses plateformes qui étaient déjà sur le digital. Mais en revanche, nous, ça nous a obligés à faire notre mue sur le digital. C'est comme ça qu'on a commencé à lancer une première plateforme qui s'appelait Le Film Chrétien à l'époque, qui est devenu Sage Plus aujourd'hui, et qui fait qu'on est présent sur le digital, nous aussi, mais grâce, en fait, l'accélérateur était vraiment le Covid. Parce qu'on faisait des enquêtes pour savoir un peu si notre public consommait de la VAD, s'il était abonné à des plateformes. Rien du tout avant le Covid. À partir du Covid, tout le monde y a goûté, et puis tout le monde est parti là-dessus. Et on a été sauvés par un film, parce que nous, on avait enfin un film qui avait un vrai gros potentiel, qui s'appelait « J'y crois encore », avec un casting connu auprès des jeunes, un film très ciblé, comédie romantique pour les jeunes, et notamment pour les femmes. Qui vient des États-Unis, un film évangélique qui raconte l'histoire vraie de Jeremy Camp, un chanteur chrétien américain très connu là-bas, qui a connu une histoire incroyable avec sa première épouse, qu'il a connue sur son campus, sur le campus universitaire. Il tombe amoureux, elle a un cancer qui la condamne. Il fait prier ses premiers fans dans ses concerts et elle est guérie miraculeusement. Il se marie et quelques mois après, elle rechute et elle est emportée par le concert en disant à Jérémy, bah, j'ai connu une prière qui a été exaucée, une prière qui n'a pas été exaucée. Et avec une vraie sagesse sur le mystère du mal, le mystère de la croix, vraiment c'est un film, je dirais, profondément évangélique, mais dans le sens, c'est le souffle de l'évangile avec un vrai questionnement sur pourquoi Dieu n'exauce pas toutes nos prières et sur le miracle et le non-miracle. Vraiment très profond, avec une vraie belle annonce de l'Évangile, très positive. Et ben, en dépit de ça, la comédie romantique est tellement bien réussie, il fonctionne vraiment à merveille parce que le couple, il y a une alchimie incroyable, etc., que tous les pure break, les auféminin.com, etc., qui sont quand même pas suspects de prosélytisme, ont embarqué dans l'histoire, voulaient être partenaires du film, les salles de cinéma voulaient faire des soirées filles, etc. Donc c'était notre plus grosse sortie jamais faite jusqu'à présent. En 2020, on allait enfin avoir un film qui allait peut-être franchir le cap des 100 000 entrées. Et on prévoit de le sortir au mois de mai, mais fin mars, toutes les salles de cinéma ferment. On avait claqué, entre guillemets, tout l'argent qu'on avait prévu de dépenser.
Oui.
Et on ne pouvait pas sortir le film. Et là, les grandes plateformes se sont mises à se tirer la bourre entre elles pour racheter les films qui ne sortaient pas à l'affiche. Et Amazon Prime a acheté J'y crois encore pour avoir les droits exclusifs. Du coup, on a arrêté de sortir en salle. Et ça nous a permis de passer toute la période. Ouais. Ouais. On a pu le vendre à Amazon Prime France.
Ouais.
Et grâce à ça, on a pu traverser 2020 et 2021, qui étaient des annus horribilis pour la profession. Nous, on a pu ne pas perdre d'argent même ces années-là. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que, et ça, c'est ce qui m'émerveille et ce qui fait ma joie, c'est que bon, ben, j'essaye bon an mal an de diriger en bon imposteur que je suis cette entreprise, mais je remarque que le Big Boss veille et qu'à chaque fois que quelque chose pourrait être dangereux ou fatal pour l'entreprise, la Providence agit et nous tire d'un mauvais pas.
Bien, c'est peut-être le moment de faire notre pause Bobino. À tout de suite.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner, la gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Par avance, merci.
Chers auditeurs, content de vous retrouver après notre petite pause traditionnelle. Nous sommes, comme vous le savez, avec Hubert de Torcy, qui a créé la société Sage, société de production et de distribution de films d'inspiration chrétienne. Il nous expliquait les premières heures de cette société, les orientations qui ont été prises, l'épreuve du Covid, le film J'y crois encore, qui leur a servi de... finalement, de révélateur sur l'option qui devait être prise auparavant. Et puis voilà, nous retrouvons la troisième ou quatrième année de Sage, hein, avec un monsieur qui a quand même fait le choix de renoncer à un poste très important dans un grand groupe pour finalement se consacrer à sa vocation, qui est celle d'utiliser les moyens qui nous sont donnés par le biais du cinéma, et puis nous le verrons aussi des séries, afin d'apporter la bonne nouvelle dans les foyers auprès des personnes qui sont tellement demandeuses de tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez continuer la chronologie, finalement, de l'évolution de votre entreprise ? Je pense que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ce qui est intéressant, c'est finalement de retranscrire dans votre manière d'avoir vécu votre entreprise, qui est un peu particulière, les succès et les échecs de toute construction.
Oui, donc c'est ce que je disais juste avant. En fait, on a souvent eu l'occasion de voir Dieu à l'œuvre, en tout cas dans les choix qu'on a pu faire. Parfois, on a fait des choix plus compliqués que d'autres. Parce qu'on en ressentait vraiment l'appel. Je pense à un film qui s'appelle Unplanned, qui a beaucoup défrayé la chronique, qui était insortable en France. C'est un film qui a été qualifié d'anti-IVG par nos détracteurs, qui n'ont pas vu le film, mais qui l'ont qualifié comme ça, qui est un film qui raconte l'histoire vraie de Abby Johnson, qui est une ancienne militante du planning familial aux États-Unis, qui un jour, qui elle-même a subi 3 avortements dans sa vie, et qui un jour, au détour d'un... pour aider un avortement qui se passe mal, en fait, prend conscience de, je dirais, de manière extrêmement concrète, de ce que c'est que l'avortement, et bascule complètement dans sa tête, et va devenir une des militantes pro-life les plus connues aux États-Unis. Elle a fait un livre qui raconte ce basculement.
C'est un peu le symbole des pro-life.
Carrément, c'est exactement ça. Et donc, ça donne un film extrêmement, je dirais, honnête. Alors, c'est bien sûr l'histoire de quelqu'un qui est passé de militante pro-avortement à militante pro-vie. Et pas l'inverse. Donc, y a ce biais, c'est cette histoire-là que les réalisateurs racontent. Mais c'est aussi c'est un film extrêmement ajusté. Je dirais que c'est pas un film caricatural, contrairement à ce que beaucoup ont voulu faire croire. Moi, c'est un film que je me suis senti appelé à proposer en version française. Parce que j'ai vu, la première fois que je l'ai vu, c'est aux États-Unis à l'occasion d'une convention où il y avait beaucoup d'évangéliques qui étaient présents. Et il y avait Abby Johnson qui était présent, toute l'équipe du film était là. Et à l'issue du film, j'ai vu plusieurs femmes évangéliques. Vous savez, les évangéliques, c'est ce qu'on appelle des born again, des nés de nouveau. Ils ont fait justement une expérience de Dieu forte dans leur vie qui les a fait basculer. Et souvent, ils revenaient de loin. Ils avaient une autre vie avant. Donc, parmi ces femmes, il y en avait beaucoup, 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 beaucoup qui avaient connu des avortements. Et Et elles se sont levées les unes après les autres, en larmes, pour remercier Abby Johnson du témoignage qu'elle avait donné, et en disant Abby, vous avez mis des mots sur ce que nous ne sommes pas autorisés à dire. C'est-à-dire, vous avez permis de dire qu'un avortement, ça pouvait se mal se passer. Et un avortement, ça pouvait laisser des séquelles profondes au sein de... Et ça, on n'a pas le droit de le dire, puisque c'est un droit, puisque c'est formidable. Mm-hmm. On n'a pas le droit de dire qu'on a mal vécu cette chose-là. Et vous nous donnez la parole. Vous donnez la parole à toutes les femmes qui n'ont pas le droit de dire qu'elles ont mal vécu leur avortement. Et donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a vraiment frappé dans ce film-là. Et qui fait que je me suis dit, c'est vraiment nécessaire de le mettre à disposition du public francophone. Même si le sujet, je l'ai expérimenté à nombreuses reprises, c'est un sujet tabou. En France, c'est un sujet totalement tabou. Et donc, on savait que ça ne servait à rien d'imaginer qu'on puisse le sortir en salle de cinéma. On aurait eu des manifestations. Les salles n'auraient pas voulu de toute façon le prendre. Et donc, on a d'abord, c'était juste après le Covid, on l'a sorti en e-cinéma. On a organisé des séances comme au cinéma, mais depuis son canapé, à la même heure, avec un temps d'échange avec un expert derrière. Oui. C'est comme ça qu'on a passé le Covid, en proposant un peu ces rendez-vous-là. Et puis ensuite, il a été... Enfin, je dirais, ce film a été acheté de manière totalement inattendue par C8, qui l'a diffusé un an et demi après, je pense qu'on...
Par C8.
Et là, ça a été un tollé incroyable. Incroyable. Il y a eu 3 ministres qui ont tweeté contre le film... contre Canal+, contre Bolloré, du coup, puisque...
C'était déjà Bolloré à l'époque.
C'était déjà Bolloré, oui. C'était déjà Bolloré qui était à la tête du groupe, qui était encore à la tête du groupe, parce qu'il a repris sa retraite depuis, mais voilà, en tout cas, il a été... ça a été vraiment un tollé médiatique incroyable.
Sur le plan des spectateurs, les chiffres commençaient à monter.
Alors, nous, ça restait très modeste, hein, parce que c'était des séances e-cinéma, il fallait vraiment savoir que ça existait, etc. Ouais. Alors que là, ben, d'un coup d'un seul, il y a plus de 350 000 personnes qui ont vu le film.
Ah oui.
Et puis ensuite, il était proposé sur toutes les plateformes de vidéos à la demande, iTunes, Google Play, Canal VOD, etc., etc. Donc là, c'est des centaines de milliers de personnes qui ont pu voir le film grâce à cette diffusion à la télévision. Et d'ailleurs, pied de nez, pour le coup, du groupe... au censeur, c'est le dernier film qui a été diffusé quand C8 a dû fermer le rideau. Le dernier film qu'ils ont diffusé sans avoir annoncé, ça a été Unplanned. Oui. Ils l'ont rediffusé donc à ce moment-là. Mais donc voilà. Donc, mais en tout cas, donc je raconte cette histoire d'Unplanned parce que c'est typiquement un choix qui était vraiment compliqué à faire. Il n'y avait que des coups à prendre.
Oui. Rien à gagner.
Il y avait rien à gagner parce que c'était impossible de le vendre.
À part toucher des personnes qui ont vécu des épreuves comme celle-ci.
C'est ça.
Et leur donner un petit rayon d'espoir.
Avec l'espoir d'en toucher peut-être que quelques-unes parce qu'on n'avait pas la puissance de pouvoir. Il n'y avait pas de diffusion C'était vraiment compliqué. Ouais. C'était coûteux. Et on se disait, ça va. Enfin voilà, on ne sait pas. On a vraiment avancé un peu en se disant, la mer va s'ouvrir devant nous, quoi. Mais on ne savait pas comment. Oui. Parce qu'on se sentait appelé à le faire, on s'est lancé là-dedans. Et c'est un film que je continue d'assumer, même si jamais c'est vraiment un péché grave aux yeux de mes contempteurs, qui est régulièrement ressorti à chaque fois qu'un article de presse, d'une certaine presse en tout cas, parle de ça. Unplanned figure en bon rang dedans. Mais je constate qu'il y a une grosse prise de risque. On avait une grande trouille. De se faire un peu comme Mel Gibson avec sa Passion du Christ, se faire tirer dans le dos par ceux qui étaient censés être nos supporters. Donc ça a été vraiment, on a fait une approche avec un dossier pédagogique, on a énormément travaillé, etc. Mais voilà, ça c'était une aventure
exceptionnelle
et finalement qui a pu toucher bien plus de monde que ce que je n'aurais pu imaginer dans mes meilleurs
quand il y a une réaction, forcément. Oui. Vous avez aujourd'hui beaucoup de médias qui vous attaquent ou en tout cas beaucoup d'agressivité à votre encontre.
C'est par épisode, mais j'ai gagné plusieurs badges au fil des années que je ne m'attendais pas à recevoir. Oui. La plupart de ces badges m'ont été décernés par des gens qui n'avaient pas vu les films dont ils parlaient. C'est ça qui est un peu horripilant. Oui. En fait, j'avoue que je suis très en en bataille contre les journalistes fainéants, et ils sont nombreux dans ce métier, qui font que du copier-coller, qui regardent ce que les autres font, mais qui ne prennent pas le temps de creuser les sujets. Voilà, donc j'ai gagné différents badges. J'ai gagné donc le badge, de, bien sûr, infamant, de militant pro-vie ou anti-IVG avec Unplanned. Quand on a sorti le film sur Vaincre ou mourir du Puy du Fou, alors que, je dirais, les meilleurs spécialistes historiques de la période
de la guerre de Vendée,
exactement, ont tous dit que, enfin, ont tous dit, il y a notamment, je ne sais plus malheureusement son nom, mais il y a vraiment une sommité qui n'est pas suspecte d'être de droite, mais plutôt marquée à gauche, dans l'université française, spécialiste de la Vendée, qui a fait sur son blog un article, mais vraiment implacable, disant toute la justesse, je dirais, historique de ce qui est présenté à l'écran. Oui. Les gens n'ont retenu, ils ont parlé d'un film révisionniste, et c'est considéré comme un film révisionniste dans la tête de tous les gens qui n'ont pas vu le film et qui n'y connaissent rien à l'histoire. Oui. Donc ça, c'est, voilà, j'ai gagné mon badge de révisionniste avec Vaincre ou mourir. De conservateur, parce que comme c'était le Puy du Fou qui avait produit le film, on a eu ce type de réduction ad hitlerium qui se fait un petit peu systématiquement. Le Puy du Fou film, c'est Nicolas de Villiers. Nicolas de Villiers, c'est Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, c'est Zemmour. Zemmour, c'est Hitler. Donc voilà, on a gagné notre badge comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? On a sorti Sound of Freedom.
Oui.
Un film incroyable, mais vraiment incroyable. Les gens qui découvrent aujourd'hui le film m'écrivent en me disant mais pourquoi on a dit que c'était un film complotiste ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de complotiste dans ce film ? C'est hallucinant. Et là, pareil, je dirais, tous les journaux ont fait du copier-coller sur le sujet, mais sans regarder le film. Le film raconte l'histoire vraie de Tim Ballard, un agent du FBI qui en a marre de coffrer des pédophiles qui consomment, entre guillemets, des vidéos sur le territoire américain, ou qui consomment des petits-enfants en dehors du territoire américain, mais sans jamais libérer les enfants, parce que c'est jamais sur le territoire américain, ou rarement, que ça se passe. Et qui un jour file sa démission pour aller monter une équipe et aller sauver une multitude d'enfants prisonniers sur une île. Depuis, il y a eu l'affaire Epstein, il y a eu plein de choses quand même qui ont montré que ce n'était pas des fantasmes. Oui. Et en dépit de ça, voilà, on a été classé complotiste avec ce film-là. Et le plus infamant, enfin pas infamant, mais en tout cas improbable des badges qu'on nous a filés, c'est avec Sacré-Cœur.
Oui.
Sacré-Cœur, c'est un film qui ne parle que de l'amour de Dieu, vraiment que de l'amour de Dieu. C'est un film dont le message essentiel est... c'est le message, finalement, du Christ à part Elmonial. Hein. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. L'autre message du film, c'est ce monde crève de ne pas se savoir aimer. Mmh. Et il est aimé de toute éternité par Dieu qui l'a créé. Ça, c'est le message du film. Et il est donné à travers à la fois les apparitions de Jésus à Marguerite Marie et puis ces témoins incroyables que les Gunelles ont su capter. Ça a touché, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément de monde.
Vous étiez le distributeur exclusif.
Exactement, oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
Et, comment ça s'est passé avec les Gunelles ? Vous connaissiez déjà ?
Oui, oui, parce qu'on est très bons amis. On avait diffusé sur Sage Plus, puis en DVD, la plupart de leurs films avant. Oui. Et donc, c'est un long compagnonnage, vraiment une amitié de longue date.
Eux ont démarré aussi
très petitement,
vraiment comme des artisans.
Ouais,
quoi,
complètement. Complètement ouais. Et on a eu donc cette très belle collaboration et qui s'est finie. Mais vraiment, franchement, Sacré-Cœur, pour le coup, pour moi, c'est une preuve de l'existence de Dieu. parce que c'était totalement inattendu qu'un documentaire déjà puisse faire de tels chiffres. On a fait 500 000 entrées en France. On a déjà fait 500 000 entrées à l'étranger, dont 260 000 entrées en Pologne, 80 000 entrées en Italie, 100 000 entrées aux États-Unis, et il reste encore le Mexique, le Brésil, le Chili, l'Espagne, l'Allemagne, la Hongrie, la Slovénie, la République tchèque. Enfin, donc il y a encore pas mal de sorties qui vont avoir lieu. Ce film-là, donc, il ne parle que d'amour. Tout d'un coup, pof, c'est sorti du chapeau comme ça. C'est un film d'extrême droite.
Oui.
C'est comme ça que ça a été qualifié. Et avec, je dirais, mais des vrais ayatollahs persuadés du truc. Oui. Pareil, qui n'ont jamais regardé le film. Mais qui nous ont, pour certaines salles, complètement interdit de diffuser le film. Ça a donné lieu à des scènes complètement mais surréalistes de gars qui filaient leur démission parce que, soi-disant, le maire leur imposait de faire une ou deux séances d'un film d'extrême droite avec des gens qui manifestaient devant le cinéma. Mais je dirais tout. C'est quand même hallucinant.
En même temps, ce n'est pas nouveau, hein. Quel que soit le domaine dans lequel ça se constate. Les réactions intempestives de personnes qui ne connaissent pas le sujet, qui réagissent à fleur de peau, parce que ça va, c'est une toute petite chose qui va un petit peu à l'encontre du prêt-établi et du prêt-à-penser. Ce n'est pas franchement nouveau.
Non, ce n'est pas nouveau. On peut s'y attendre. C'est vrai.
Et en même temps, quand il y a des réactions comme celle-ci, ça prouve qu'on est un peu dangereux pour eux, donc il y a de l'intérêt.
Oui.
Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour ce film.
Bah, du coup, ça a contribué sans doute au succès, ça c'est certain. Mais je me serais quand même bien passé de ce badge, qui était vraiment totalement injustifié. Mais voilà, donc c'est pour dire qu'effectivement, on a quand même assez régulièrement des petites tempêtes médiatiques à traverser qui ne sont jamais agréables à traverser. Pourquoi elles sont, c'est pas tellement pour notre personne, mais c'est plus parce que je pense qu'elles, l'air de rien, elles empêchent l'accès du film à certaines personnes qui auraient pu y trouver du fruit quoi, dans leur vie. Et c'est vraiment, une fois encore, quand les gens découvrent ces films-là, ils sont sidérés, quoi. Sidérés des polémiques que ça a pu générer.
Oui. Est-ce que vous remettez au goût du jour des films anciens qui, s'il n'y avait pas eu de contre-publicité, s'il y avait eu une plateforme comme ça à l'époque, auraient eu plus de succès? Je pense par exemple au film de Barnerias, M et le troisième secret.
Oui, c'est vrai. Alors, on n'a pas les films de Barnerias de Pierre sur notre plateforme. On pourrait. De fait. En plus, on se connaît plutôt bien avec Pierre. On a eu un temps les films de Cheyenne Caron.
Oui.
Après ça, sur la plateforme, c'est sûr qu'on a presque 350 titres. Donc, on a une très grande variété de films.
Oui.
On s'efforce régulièrement de mettre des classiques aussi du cinéma. Ce n'est pas les films les plus vus. Des vieux films en noir et blanc comme Monsieur Vincent... sur Saint-Vincent de Paul ou Le Sorcier de Dieu, sur Le Curé d'Ars, qui sont des films des années 40 ou des années 50. Ou même, on a fait plusieurs films sur Jeanne d'Arc. Il y a eu beaucoup de films sur Jeanne d'Arc remarquables par le passé. Ou Le Thérèse d'Alain Cavalier. Enfin voilà, il y a quelques... Parce qu'il y a eu des films chrétiens français de grande qualité. Et il y a eu des films aussi sur Bernadette, sur Sainte-Bernadette. Enfin... de Jean Delannoy, enfin il y a eu vraiment quand même une production de qualité. On a fait quelques films, on a quelques films de Bresson aussi, comme Les Anges du Péché. Enfin voilà. Donc il y a quelques vieux films comme ça qu'on permet de remettre un peu au goût du jour pour un public une fois encore n'est pas très cinéphile. Le public catholique n'est pas forcément très cinéphile.
Et puis les jeunes, il leur faut quand même quelque chose.
Oui.
Dès que c'est un petit peu ancien,
c'est trop long.
Au bout d'un quart d'heure,
c'est trop long, carrément. Ouais. C'est pas le même rythme. Et puis après ça, non. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sur cette plateforme, il y a tous les films. Je pense quasiment tous les films. Allez, 98% des films chrétiens disponibles en langue française sont sur Sage+. On vient enfin d'acquérir. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on va à partir de quel mois. Mais le film Mission de Roland Joffé. Enfin voilà, on essaye d'avoir tous les.
Et alors là, on va encore plus loin, puisqu'on va récupérer des films grand public, dans lesquels il y a des parties du film qui font appel à cette inspiration chrétienne.
Exactement. Hein,
et qui parfois peut être débattue, parce que c'est présenté d'une manière qui est assez objective, à un moment donné, mais qui participe à la culture. Hein, ouais. Globalement, la connaissance de l'histoire chrétienne aussi,
carrément,
c'est important.
Exactement. Ouais. On a énormément de vies de saints qui ont été produites en Italie dans les années 2000. Avec parfois des grands acteurs. Hein. On a un magnifique Omar Sharif qui campe Saint-Pierre dans un film qui s'appelle Saint-Pierre. On a un très beau film sur Pie XII. On a sur Don Bosco, Padre Pio, bien sûr, Mère Teresa, Philippe Neri, enfin toutes les grandes figures de saints qui ont été traitées par les Italiens. Dans les années 2000, c'était diffusé sur la RAI en prime time. Ça faisait 50% de l'audience.
Ah oui.
Donc c'est quand même magnifique. Et maintenant, ça c'est un peu, je dirais, ce vers quoi on se dirige, nous. Mais on aimerait apporter maintenant cette touche catholique française à cette production mondiale de films d'inspiration chrétienne. Donc c'est vraiment la production qui va être vraiment l'étape qui va normalement s'ouvrir maintenant pour nous de manière un peu résolue.
Oui, alors en fait, la question c'est de savoir quelle est votre stratégie, comment vous la déclinez, hein, parce qu'il y a à la fois cette volonté de vous imposer... sur une plateforme plus internationale, peut-être, en tout cas, de...
Non, on ne cherche pas tant, nous, à s'étendre à l'international, dans le sens où, le jargon du métier, fait qu'il y a ce qu'on appelle la localisation. La localisation, c'est le fait de à la fois traduire les contenus dans la langue du pays et en même temps communiquer auprès du public de ce pays pour lui faire connaître l'existence de ce film susceptible de l'intéresser en s'intéressant plus particulièrement sur le public, on va dire, naturel que sont les croyants. Mais la plupart de ces films n'ont pas vocation à rester qu'au sein des croyants. Ils ont justement susceptibles de toucher un public plus large. Mais donc, la question de la localisation, pour moi, est une barrière suffisamment, je dirais, forte pour que je ne puisse pas, en tout cas, m'occuper de ça depuis la France. Ça serait inconcevable. En revanche, ça fait partie des axes stratégiques que je déploie actuellement, et notamment grâce au succès de Sacré-Cœur à l'international. Je m'efforce de construire une sorte de fédération des acteurs, je dirais, faith-based, hein, donc qui sont sur créneau des films chrétiens et qui sont catholiques dans le monde, aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Slovénie, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc., en Pologne, parce qu'il y a un enjeu. En fait, moi, ma grande, je dirais, tristesse, c'est que je me dis que c'est les catholiques qui auraient dû inventer les majors américaines. Les majors américaines, leur succès, on parle des Big Five, c'est les Universal, Warner, Disney, enfin voilà, toutes ces grandes majors, Lionsgate, qui à Hollywood, qui sont toutes basées à Hollywood et qui produisent ces contenus, c'est ce qu'on appelle les blockbusters, là, qui font des centaines de millions d'entrées dans le monde entier, qui arrivent à sortir de manière concomitante au niveau mondial. Eux, ils investissent donc des centaines de millions d'euros dans leurs films et ils investissent 100% de cette somme à nouveau dans les frais de sortie du film pour faire connaître. Et ils achètent et ils se basent sur ce qui s'appelle, je suis désolé, je vais donner, parce que je me positionne là plus sur ce marché américain, mais quelques mots en anglais, je sais qu'on n'aime pas trop ça sur cette radio, mais des IP, c'est-à-dire des intellectual property, c'est-à-dire des, on va dire, des figures connues mondialement. Donc il parie beaucoup sur ses IP pour créer, c'est tous les super-héros, tout le panthéon, on va dire, des dieux américains qui nous submergent régulièrement. C'est toutes les grandes figures animées de Disney qui sont déployées à l'infini. Et puis ces nouvelles créations comme les Star Wars et compagnie, là, qui derrière donnent lieu à ce qui s'appelle des spin-offs, on recrée des histoires à partir d'histoires existantes on exploite au maximum, on va dire, ces
acteurs. La filière. Ouais. Alors, comment vous positionnez par rapport à ça?
Moi, je dis, en fait, la plus grande IP au monde, c'est la Bible. C'est le livre qui, chaque année, depuis que l'imprimerie existe, est le livre le plus vendu au monde.
Ah oui, j'ai entendu ça.
Donc ça, c'est vraiment l'IP majeur. Il n'y a pas de plus grosse IP que la Bible. C'est ce qui fait que d'ailleurs, les films sur Jésus, de manière générale, quand il y a un peu le moyen dedans, font des succès incroyables. Donc ça, c'est la première chose. Donc on l'a en partage avec tous ceux qui se recommandent du christianisme. Mais donc ça, c'est et c'est la chose, je dirais, dans le monde entier, les gens connaissent Jésus-Christ. Et puis après ça, il y a une deuxième catégorie d'IP qui sont, pour le coup, spécifiquement catholiques, c'est tous les saints.
Oui.
Tout le monde, enfin, typiquement, le succès de Sacré-Cœur à l'international, il s'explique du fait que vous allez en Chine, vous allez au fin fond de l'Amérique du Sud, vous allez aux États-Unis, vous avez une statue du Sacré-Cœur.
Oui.
Personne ne sait que cette statue, elle figure cette apparition qui a eu lieu il y a 350 ans dans un petit village de Bourgogne à Paray-le-Monial, à une religieuse dont tout le monde ignore le nom, Sainte Marguerite Marie à la Coque, mais tout le monde a sa statue du Sacré-Cœur dans toutes les églises du monde entier. C'est devenu, il y a une fête du Sacré-Cœur. Enfin, voilà. La Vierge Marie, j'en parle pas. Nous, on est en train de préparer un biopic sur Sainte Thérèse de Lisieux. C'est pareil, Sainte Thérèse de Lisieux, il y a des statues d'elle dans le monde entier. Son livre, Histoire d'une âme, a été traduit dans 60 langues, a été vendu à plus de 500 millions d'exemplaires.
C'était le plus grand best-seller pour reprendre un anglicisme de
l'époque. Exactement, tout à fait. Donc, on a des IP, sauf qu'on ne s'est jamais organisé. Et en plus, on a une structure hiérarchisée. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une forme de hiérarchie catholique qui fait qu'on pourrait penser qu'on pourrait décider d'en haut des choses qui se répandent dans le monde entier. On avait tous les ingrédients pour créer ces fameuses majors américaines, sauf qu'on ne l'a jamais fait. On ne s'en est pas du tout occupé, je dirais, nous, catholiques. Pendant ce temps-là, les évangéliques qui n'ont ni cette structure verticale, aucune de ces... Alors si, ils ont la Bible en partage avec nous, mais en tout cas, ils n'ont pas ces vite-saints, etc. Et d'ailleurs, ils produisent énormément d'histoires qui sont des histoires très récentes, parce que comme le disait un très bon ami pasteur évangélique, l'histoire de l'Église, pour un évangélique, remonte au jour où il a fait sa rencontre avec Dieu, au jour où il a été born again. Donc c'est généralement assez récent. Alors qu'on a 2000 ans d'histoire pour nous, qui est passionnante. Et je dirais, il y a les grands saints italiens dont j'ai parlé tout à l'heure, les Don Bosco, les Philippe Neri, les Padre Pio, etc. Mais en France, il y a Sainte Thérèse de Lisieux, il y a Charles de Foucault, il y a le curé d'Ars, il y a Saint Vincent de Paul, il y a Catherine Labouré et les apparitions de Lourdes, et la médaille miraculeuse, il y a Sainte Bernadette et Lourdes. Enfin, il y a des saints qui sont connus dans le monde entier aussi.
Qui rayonnent partout.
Oui. Exactement. Ouais. Et donc voilà, moi, mon projet en tout cas, alors c'est pas que des vies de saints, bien entendu, mais maintenant qu'on a fait nos armes, maintenant qu'on a prouvé qu'il y avait un marché, même en France, qui était vraiment considéré, je me rappelle, des premières conventions américaines du film chrétien auxquelles j'assistais, j'étais le seul Français qu'ils aient jamais vu. Pour eux, la France, vue d'Amérique, c'était le trou noir de l'athéisme au sein de l'Europe. Et donc, d'imaginer qu'il puisse y avoir quelques chrétiens crypto-cachés dans ce pays de persécution des chrétiens, enfin, c'était pour eux, j'avais l'impression d'avoir traversé le rideau de fer. Donc, en tout cas, voilà, ces 12 années de distribution, et c'était ce que j'avais annoncé à mes actionnaires quand j'ai lancé le deuxième étage de la fusée, donc après l'expérience de la sortie de Christeros, j'ai créé une nouvelle structure. La communauté a apporté les actifs de l'ancienne structure dans cette nouvelle structure. On a levé 1 million d'euros de capital parce qu'on savait qu'il fallait beaucoup plus fortement se doter en capital puisque c'est quand même une activité qui est très gourmande en cash. Et donc, voilà.
Ceux qui investissent dans ce type d'activité n'attendent pas de retour particulier ou...
Ils n'en attendent pas. C'est ce que me disait l'un de mes actionnaires. Il me dit, c'est marrant parce qu'à l'époque où il a investi dans Sage, il me disait, j'ai investi dans plein de startups. Et je m'étais dit, bon, allez, là, c'est un peu pour la gloire de Dieu que je fais ça pour Sage. J'attends pas de retour. Il m'a dit, toutes les startups dans lesquelles j'ai investi, elles ont toutes fermé. Elles n'ont jamais ramené un euro. Et toi, chaque année, tu me verses des dividendes. Donc c'est pas incompatible, malgré tout.
C'est ça.
Et donc, en tout cas, ce que j'avais dit à mes actionnaires il y a maintenant 12 ans, je leur avais dit, ou 10 ans, je leur avais dit, ben, le premier étage de la fusée, c'est la distribution. Parce qu'on a la chance que d'autres, on va dire, d'autres précurseurs ont commencé ce travail-là. Aux États-Unis, en Pologne, en Espagne. Donc, utilisons ce qu'ils ont produit, faisons-le connaître, montrons qu'il y a un marché en France, parce que ça, tout le monde en doutait. Et puis, une fois qu'on aura bien montré et qu'on se sera rendu crédible sur ce créneau-là, on pourra se lancer dans la production. Mais le but, c'est quand même de produire nos propres contenus et d'apporter cette touche catholique française au monde. Parce qu'on a un message, je pense, fort à donner au monde. Et puis, une forme de subtilité que n'ont pas toujours les Américains. Je suis très content d'avoir leur film, mais c'est vrai que souvent, il y a un petit côté un peu manichéen qui n'est pas toujours le bienvenu en France, où on n'aime pas trop qu'on nous prenne trop par la main pour nous dire, attention, ça c'est le gentil, ça c'est le méchant, et voilà comment il faut penser. Donc voilà, c'est ça qu'on voudrait apporter. On a commencé avec un documentaire, il y a quelques années, qui s'appelle Brother, un film de fiction, une comédie spirituelle qui s'appelle De mauvaise foi avec Pascal Demolon et Philippe Duquesne qu'on a sorti l'année dernière, il y a un an, et qui cartonne en ce moment sur Canal+, avec plus d'un million de spectateurs, d'abonnés de Canal+, qui ont vu le film, et qui a été visiblement très apprécié.
Et là, puis, le modèle dans ce type d'action, en termes de rémunération, pour vous, c'est quoi le nombre?
Alors là, c'est très compliqué.
Oui.
C'est très compliqué parce que c'est vraiment un business model très particulier, le cinéma. Je dirais que le risque du producteur, c'est des montants considérables. Je prends l'exemple de mauvaise foi, c'est un budget de 2,5 millions d'euros. C'est un tout petit budget. Le budget moyen, c'est 4 millions pour un film de cinéma. Donc 2,5 millions, on a réussi à faire pas mal d'économies pour arriver à ce budget-là. Sur les 2,5, de manière extrêmement schématique, il est financé comment? Il est financé par un préachat de Canal+, à hauteur de 25% en gros du budget, par ce qu'on appelle le crédit d'impôt français. En gros, c'est un peu un coup de génie. On décrit assez souvent le CNC de manière très injuste. Il y a quelque chose de génial dans le CNC, c'est que... Alors, c'est la France qui a inventé ça, donc ça passe par des taxes. Mais quand vous allez au cinéma, que vous achetez un DVD, que vous regardez la télévision, etc., vous payez une taxe additionnelle à la TVA qui vient alimenter les caisses du CNC et qui permet et qui n'est utilisée que pour financer la production, la distribution et la diffusion et l'exploitation en salle de cinéma de films français. Oui. Donc, on va dire qu'il y a 40% du box-office qui est fait par les Américains et qui sert à financer 100% de la création française. C'est assez original, mais c'est efficace. On est les seuls à avoir gardé, on va dire, un box-office constitué encore à 45% de films français. Oui. Dans tous les pays d'Europe, 80% du box-office est fait par les films américains. Il n'y a plus rien. Tous les cinémas italiens, allemands, espagnols qui ont connu leur heure de gloire ou anglais ont disparu, ou quasiment disparu. Donc ça fait partie des bénéfices, entre guillemets, de produire en France. C'est qu'il y a ce fameux crédit d'impôt qui fait que toute dépense faite en France avec des comédiens français, des techniciens français, etc., en suivant les grilles de salaire, on va dire, imposées par la profession, sont remboursés, entre guillemets, par l'État à hauteur de 30%, jusqu'à 30% du budget. Donc voilà, donc ça fait à peu près, au final, 20 à 25% de mon budget qui a été financé par le crédit d'impôt. Mmh. Puis ensuite, il y a une moitié d'apport qui a été faite par Sage et une moitié par des investisseurs privés que je salue parce que voilà, c'est grâce à eux qu'on a pu lancer le premier film qui est toujours le plus compliqué à financer. Et voilà, mais on a maintenant une dizaine de projets qui sont en gestation, en préparation. J'ai donné les vies de saints sur lesquels on travaille en ce moment. Mais on a aussi une comédie, on a aussi un documentaire sur le linceul de Turin. Enfin, on a beaucoup de projets en développement. Avec.
Il n'y a jamais rien eu fait, en fait. Il y a eu quelques diligences de la part de certaines télévisions, mais très, très spontanées. Et puis, alors que là, un vrai documentaire.
Ah oui, c'est clair, le cinéma. Non, mais surtout, ce qui est dingue, c'est que vous interrogez les gens, je pense qu'à 99,8%, ils vous disent oui, c'est un faux du Moyen-Âge, puisque le carbone 14 a parlé dans les années 80.
Oui.
Ils en sont restés là. Oui. Toutes les autres découvertes scientifiques qui ont remis en cause à la fois cette datation et qui, au contraire, les dates, le datent désormais au premier siècle de notre ère, personne n'est au courant.
Personne n'est au courant. Et puis ensuite, quand on demande d'expliquer comment on a pu faire un faux au Moyen-Âge de cette nature, personne ne peut l'expliquer.
Donc là, il est vraiment nécessaire de faire un documentaire sur le sujet. Donc on y travaille. Ouais. Voilà, donc on a plein de projets. Et donc ça, c'est passionnant. Et on
et
est en
série,
train de...
Chosen. Ouais. Donc, ça, en fait, là encore, vous avez récupéré les droits toujours par le même canal aux États-Unis.
Alors, c'est à chaque fois les canaux différents en fonction des producteurs. Mais oui, effectivement, on est en lien avec 5&2, la boîte qui produit cette série.
Ouais.
Et qui, nous depuis le début, nous fait confiance et nous laisse distribuer. Là, ils sont en train de terminer le tournage de la saison 7, la dernière saison.
Combien d'épisodes par saison ?
Il y a 8 épisodes par saison.
Ah oui, donc ça ferait une cinquantaine.
Oui, on va être à 56 épisodes en tout.
Ouais.
Là, il y en a 5 qui sont disponibles actuellement sur toutes les plateformes, sur Sage+, notre plateforme bien sûr, mais sur MyCanal, sur Amazon Prime, sur Netflix, en français. La saison 6, qui est concentrée sur la passion du Christ, va sortir à partir de décembre pour les 6 premiers épisodes. Et en mars, au moment de Pâques, va sortir en guise de 7e et 8e épisode, un film de cinéma qui sortira au cinéma au moment du Dimanche des Rameaux. Et puis l'année d'après, donc en 2028, sortira la dernière saison sur la résurrection. Mais cette année, ça va être une année, enfin 2027 va être une année Jésus, vraiment Jésus, puisqu'on va sortir un premier film qui s'appellera Année Zéro, la naissance du Christ, un film réalisé par Alejandro Monteverde qui avait fait Sound of Freedom et qui est centré sur la naissance de Jésus, mais avec la croix au milieu de cette naissance. C'est les mystères joyeux, mais c'est aussi les mystères douloureux, avec notamment le massacre des saints innocents, la fuite en Égypte, et la prophétie du vieillard Siméon. La crucifixion, ce fameux épisode conclusif de la saison 6 de The Chosen, qui sortira à Pâques. Et puis la résurrection du Christ, de Mel Gibson, qui sortira à l'Ascension, en 2027. Donc ça va être une année très riche autour de Jésus 2027. Et puis en parallèle, nous, on va continuer à produire. Notre prochain tournage devrait avoir lieu au printemps prochain, sur Thérèse de Lisieux, un biopic sur Thérèse. Et donc, d'ici la fin d'année...
C'est vous qui produisez.
Là, c'est nous qui produisons. Alors, on coproduit avec d'autres, avec JLA, un coproducteur français, avec Bosco Film, un producteur espagnol, Ami, qui fait partie un peu de cette alliance dont je parlais tout à l'heure, avec un investisseur polonais, un investisseur tchèque. Enfin, on essaie de trouver un investisseur italien, un investisseur américain, parce que ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est des IP internationales, donc c'est susceptible de diffuser partout. Donc ça, c'est le gros chantier numéro un, c'est cette alliance que je souhaite constituer. Et le deuxième gros chantier, c'est la constitution d'un fonds d'investissement, une sorte de société plutôt d'investissement, qui va, mutualiser les risques sur ces différents projets qu'on va produire sur les 15 prochaines années, tous ces films qui sont dans notre, voilà, dans notre escarcelle, sur lesquels on travaille, sur lesquels des scénaristes travaillent pour le moment. C'était le temps de gestation très long, mais on veut, on va dire, c'est une industrie qui est de prototype. Oui. Et on dit souvent que sur 10 films, on raconte cette histoire que je vous raconte parce qu'elle est plaisante. Je ne sais pas si elle est vraie, mais quand Sony a racheté Columbia, qui était un de ces fameux studios américains à Hollywood, Sony, c'était le japonais qui fabriquait, on va dire, du contenant, des téléviseurs, des magnétoscopes, des cassettes VHS, etc. Ouais. Je pense qu'un jour, ils ont eu un gars de McKinsey ou, je ne sais, ou du BCG qui leur a dit « Mais la chaîne de la valeur, regardez, il faut que vous soyez aussi sur le contenu. » Et ils se sont mis en tête d'acheter un faiseur, un créateur de contenu. Et donc, à ce moment-là, Columbia était à vendre. Ils ont débarqué dans les locaux de Columbia et ils sont tombés sur deux anciens coiffeurs de stars qui étaient à la tête de cette structure, qui rêvaient d'aller fumer leur chichon sur la plage de Malibu et qui vendaient la boutique. Et qui leur ont dit « Mais vous n'y connaissez rien à la production, on va vous expliquer, c'est très simple. Vous allez commencer par produire 10 films. Sur les 7 premiers, vous allez perdre de l'argent. Sur le 8e, vous serez tout juste break-even. Et sur les 2 derniers, vous allez tellement gagner d'argent que vous allez non seulement compenser toutes les pertes accumulées sur les 7 premiers, mais pouvoir commencer à produire les 10 suivants. » Donc là, les Japonais sont tombés littéralement de leur chaise quand ils ont découvert ça.
Ça, c'était les dirigeants de Columbia qui leur ont expliqué.
C'est ça. Ouais. Ils ont demandé à se réunir entre eux, ils se sont échauffés pendant 2 heures, ils sont sortis en disant « ça y est, on a trouvé, on ne produira que les 3 derniers ». Donc ça, c'est ce que tout le monde rêve de faire, c'est de produire que les films qui vont faire 10 millions d'entrées, sauf que personne ne sait et personne n'a la recette de quel est le film qui va marcher. On a tous les cas de figure, il y a des films excellents qui font des bides,
il y a des
films débiles qui font des succès absolument planétaires, incroyables. C'est vraiment, il y a une forme de gambling, enfin d'incertitude, de hasard. Personne n'a la recette, en fait. Hein. Si elle était connue, les gens l'appliqueraient. Et donc, il faut, de fait, on va dire, diversifier le risque sur plusieurs projets et non pas se dire, ah, j'ai trouvé la pépite, c'est celle-là sur laquelle je vais investir. Et donc, l'idée de cette société d'investissement, c'est de se dire, on mutualise le risque sur plusieurs projets. Comme ça, on aura, j'espère, des statistiques meilleures que celles que je viens de donner, mais qui sont quand même globalement les statistiques du métier et de la profession.
Bon, donc vous n'êtes pas trop perturbé par l'évolution technologique du moment ?
Non, parce que c'est... Enfin, pour moi, c'est plein de promesses.
L'intelligence artificielle, vous l'intégrez, j'imagine, forcément, dans certaines de vos actions.
Ça va être... Pardon encore pour cet anglicisme, c'est décidément un game changer, vraiment, complètement dans cette profession. Aujourd'hui, il y a des choses que seuls ces fameux studios américains sont capables de se payer. Des traductions dans 60 langues. Des effets spéciaux, la reconstitution d'une ville de Paris au XVIIe siècle, des foules de gens amassés sur la place de Grève en habits de révolutionnaires. Oui. Ça coûte, mais il y a énormément.
Oui, bien sûr. Oui.
Demain, c'est 2000 euros avec l'IA.
Oui.
Même un accident de voiture. Donc, il y a énormément de choses, d'un film de guerre, des explosions, des choses comme ça. Enfin, toutes ces choses-là qui sont extrêmement coûteuses vont devenir accessibles à des petits producteurs indépendants comme moi.
Et ça ne sera pas du... C'est l'idée qu'il y a derrière, le message qu'on veut faire passer. On sera moins dépendant, finalement, du décor.
Exactement. Exactement. Ça restera, bien sûr, le scénario, la qualité de jeu des comédiens. Oui. Mais pour beaucoup, beaucoup de choses qui sont aujourd'hui inaccessibles et qui font la valeur de production, on va dire, des grands films qu'on va voir au cinéma, elles seront accessibles à beaucoup, beaucoup de producteurs indépendants.
Alors, nous arrivons au terme de l'émission. Je crois qu'il doit nous rester 2 minutes, 2 ou 3 minutes pour conclure. Et donc, en conclusion, ce qui est intéressant pour tous nos auditeurs, c'est de voir comment un homme comme vous, qui est au cœur de la diffusion, finalement, de supports qui permettent de faire bouger le monde, comment vous voyez les années qui vont venir, votre rôle dans ce contexte-là. Est-ce qu'on peut avoir de grandes ambitions et pas rester au niveau artisanal ?
Moi, je pense que le sens de l'histoire est celui-là. C'est-à-dire que, et je le vois, enfin, il y a plein de signaux en fait, qui nous renvoient ça. Et à commencer par ces fameux dizaines de milliers de gens qui reviennent à l'église et qui demandent le baptême, les jeunes générations n'ont pas du tout les appréhensions que peuvent avoir leurs aînés vis-à-vis de la foi. Il y a une soif de Dieu incroyable, ouais, qui est probablement d'autant plus forte que... pas seulement parce que Malraux a dit que le 21e siècle serait religieux, mais parce que ce monde est incertain, parce qu'il y a une forme d'insécurité culturelle dans laquelle on est tous plongés, et qui fait qu'on a besoin de racines, on a besoin de savoir d'où on vient pour pouvoir savoir où on va.
Ouais.
Et que de ce point de vue, j'irai des films qui vont dire notre histoire profonde, qui vont dire nos racines, qui vont redonner une quille, en fait, à chacune de nos vies, un axe, qui vont permettre, peut-être cette rencontre avec Dieu. Ils ont de l'avenir. Et je suis assez vraiment confiant dans le fait que ces films seront à la mode. Aujourd'hui, ils ne sont pas diffusés sur les chaînes grand public, les chaînes gratuites. Il y a seulement Canal+, en fait, aujourd'hui, et les plateformes américaines qui ont une forme de décomplexion, parce qu'on est encore les héritiers d'une laïcité vécue comme une forme de censure par rapport à tout ce qui est religieux. Ça va bouger.
Oui.
Ça commence déjà à bouger. Et voilà, je pense que c'est vraiment ça la suite de l'histoire.
Donc on peut être raisonnablement optimiste pour ce qui va se passer.
Je le suis, en tout cas.
Très bien. Merci beaucoup, Hubert de Torcy, pour ce beau témoignage, pour cet engagement surtout, parce que pour réussir dans une entreprise, il faut de la volonté. Mais quand en plus l'entreprise est assise sur du spirituel, il en faut encore plus, et de la conviction. Et donc, merci infiniment d'avoir partagé ça avec nos auditeurs. À la prochaine émission.
Merci, Louis.
D'entendre le Libre Journal des Entrepreneurs dirigé par Louis Laboca. Émission préenregistrée le 10 juillet 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 16 juillet de midi à 13h30 et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.